France Info.
France Info.
L'invité politique de France Info est Luc Châtel, député de la Haute-Marne et secrétaire général de l'UMP. Bonjour.
Bonjour.
La donne a changé cette semaine à l'UMP. Alain Juppé est candidat à la primaire pour la présidentielle. On attend maintenant de connaître les intentions de Nicolas Sarkozy. Il doit normalement s'exprimer avant la fin du mois. Vous avez des informations ?
Non, je n'en ai pas. Je vous trouve très affirmative. Non, je n'ai pas d'éléments sur telle ou telle intervention de Nicolas Sarkozy.
Il y a déjà 4 candidats à la primaire UMP pour la présidentielle. C'est trop ?
Non, c'est une bonne chose. Nous avons voulu que dans nos statuts, il y a un an lorsque nous les avons réformés, que ce soit les sympathisants de droite et du centre qui choisissent le futur candidat à l'élection présidentielle en 2017. Donc si on veut que ce soit les candidats qui choisissent, que ce soit les militants qui choisissent, il faut qu'il y ait plusieurs candidats, il faut qu'il y ait le choix, il faut qu'il y ait plusieurs personnalités. Donc c'est plutôt une richesse et une bonne chose.
Et ce n'est pas une source de division dans un parti qui est déjà bien divisé ?
Je ne crois pas, vu l'état d'esprit dans lequel ça se déroule pour l'instant. J'ai entendu la candidature d'Alain Juppé. Alain Juppé est un homme de grand talent, qui a beaucoup de hauteur de vue. Il est tout à fait libre de présenter sa candidature. Et je crois que c'est plutôt la diversité de nos talents qui est un atout, plutôt qu'autre chose.
Et ce n'est pas trop tôt ? Vous n'avez même pas encore de président de votre parti, de parti ?
Non, je crois que les militants et les Français sauront dissocier les choses. Effectivement, moi, mon horizon est beaucoup plus court, puisque moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que nous ayons un président le 29 novembre prochain et de redresser le parti dans cette attente. Voilà, les primaires, ce sera pour 2016, donc c'est une échéance qui est plus lointaine.
Quel sera le rôle du président de l'UMP ? Ce sera juste un trésorier ou un soutien pour le futur candidat ou un candidat lui-même ?
D'abord, rien n'interdit au futur président de l'UMP d'être candidat lui-même. Il serait un peu paradoxal que celui que nos militants vont choisir au mois de novembre soit notre chef, soit celui qui fixe le cap, qui réorganise le parti, qui porte le fer au gouvernement, qui déroule un projet devant les Français et qui soit interdit de se présenter à l'élection présidentielle. Dans nos statuts, effectivement, nous avons prévu que le président de l'UMP peut, s'il le souhaite, être candidat à l'élection présidentielle via le système des primaires. Ensuite, j'ai un petit peu décrit ce qui est la fonction du futur président de l'UMP. Ce qu'il faut, c'est redonner de l'espoir aux Français. Aujourd'hui, les Français sont désespérés parce que, d'abord, M. Hollande les a trahis, la situation économique est désastreuse, et face à ce gouvernement, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'alternative possible et qu'il n'y a qu'un affrontement entre PS et Front National. Il faut sortir de cela. Il faut que l'UMP redevienne une force d'opposition crédible, légitime, qu'elle soit capable de proposer un contre-projet et ce sera ça l'objectif de la direction qui sera élue au mois de novembre.
Et le poste vous intéresse ?
Non, moi j'ai dit que je n'étais pas candidat parce que je pense que si je veux mener à bien ma mission de redressement du parti, de préparation de l'élection en toute indépendance, faire en sorte qu'elle soit totalement inattaquable et que le futur président soit élu dans un contexte apaisé,
ça
m'a semblé important
de
ne pas être candidat. Oui, ce sera un vote électronique. Nous avons pensé que c'était important de ne pas reconduire ce qui s'était passé en 2012. Nous avons une haute autorité. Nous avons essayé de prendre des décisions qui permettent d'organiser le scrutin dans les meilleures conditions possibles.
Où en est-on des finances de l'UMP ? La dette était estimée à plus de 74 millions d'euros. Elle se résorbe ?
Nous avons présenté, ce qui ne s'est jamais vu dans un parti politique, un audit financier au début du mois de juillet qui a été fait par un cabinet indépendant que nous avons publié intégralement. Il est d'ailleurs disponible sur le site internet de l'UMP. Cet audit est très clair. Il montre que oui, nous sommes endettés. Oui, l'état de nos finances est difficile, mais il y a un chemin de crête à condition, un, qu'on fasse des économies. Nous les avons engagés. J'ai annoncé un premier plan d'économie au mois de juillet qui va nous permettre d'économiser cette année de l'ordre d'1,7 million d'euros, c'est-à-dire de l'ordre de 15% des dépenses de fonctionnement du parti. J'annoncerai, je suis en train de préparer un deuxième plan d'économie que j'annoncerai au bureau politique au début du mois de septembre. Donc sur ce premier point, nous avons bien avancé. Et puis deuxièmement, nous devons d'un côté limiter nos dépenses politiques, d'engagement politique, mais nous devons aussi augmenter nos recettes, c'est-à-dire faire en sorte que on ait davantage de militants, que nous rassurions un petit peu nos soutiens qui ont été désespérés ces dernières années.
Et que tous les mauvais payeurs de l'UMP, tous les parlementaires qui n'ont pas payé,
et que par exemple les élus cotisent de manière systématique comme ça doit être le cas.
Vous avez réussi
Nous avons de bonnes rentrées pendant l'été, ce qui montre qu'il y a aussi un sens des responsabilités.
Il y avait plusieurs centaines de parlementaires quand même qui ne payaient pas. On en est encore dans cet endroit-là ?
Si vous voulez, c'est un vieux sujet. sujet, c'est un vieux sujet. Tous les
ça montre quand même le manque de confiance, en tout cas, entre les élus et leur parti.
Non, je vais vous dire, peut-être récemment, mais depuis toujours, à l'UMP, avant, dans les autres partis, au RPR, à l'UDF, on s'est battu pour obtenir les cotisations des élus. Voilà, c'est comme ça. À droite, sans doute que les élus sont un peu moins disciplinés qu'à gauche. C'est comme ça, c'est un peu dans nos gènes, donc c'est compliqué, c'est difficile. Alors, effectivement, quand vous rencontrez des turbulences, comme on les a connues depuis 2 ans, c'est sans doute encore plus difficile. Voilà. Ce que je constate, c'est que l'apaisement depuis 1 mois et demi, le travail que nous menons, la transparence, l'exemplarité, les économies, tout ça envoie un signal qui fait que je constate des rentrées de cotisations que nous n'avions pas jusqu'à présent.
Le gouvernement Luc Chatel fait sa rentrée. François Hollande ne cesse de réaffirmer le bien fondé de sa politique. Et ceux qu'il critique sont, selon lui, soit des professionnels du catastrophisme, soit des impatients. Vous êtes dans quelle catégorie ?
Ben moi, je suis impatient, c'est vrai. Impatient que M. Hollande regarde la réalité en face. La France est au fond du trou, M. Hollande va dans le mur et il ne fait qu'apporter une réponse politique alors que nous attendons une réponse économique. On a eu le sentiment qu'il répondait avant-hier à la gauche de la gauche, à sa majorité. Alors que ce qui est important, c'est qu'il réponde aux Français.
C'est le pacte de responsabilité, ce n'est pas pour la gauche de la gauche.
Hein. Oui, enfin, le pacte de responsabilité, il a été annoncé le 1er janvier, il n'est toujours pas mis en œuvre. Écoutez, je trouve ce gouvernement extraordinaire. Imaginez une entreprise qui, au cœur de l'été, perd un de ses plus gros clients, perd 30% de son activité. Tout le monde retourne sur le pont, tout le monde retourne au travail. Enfin, nous avons eu un coup de tonnerre au cœur de l'été qui a été le chiffre de la croissance, qui montre que aujourd'hui, la croissance est nulle dans notre pays. Et on a un gouvernement qui continue, qui fait comme si de rien n'était, qui nous annonce une conférence sur l'investissement le 15 septembre, qui nous annonce une réunion sur l'apprentissage à la rentrée.
Il fallait faire quoi alors ?
On nous parle même plus. Mais écoutez, il faut un électrochoc dans notre pays. Il faut regarder la réalité en face. L'investissement est négatif. C'est-à-dire que les capitaux fuient la France aujourd'hui. Ils n'investissent plus dans l'économie. Il y a 1000 chômeurs de plus par jour. Donc ça nécessite d'abord une prise de conscience immédiate. Ensuite, ça nécessite un changement, ça nécessite des décisions qui ne viennent pas. Et le gouvernement s'entête. Moi, je sais que François Hollande aime beaucoup trouver des responsables à la situation économique. Ça a été pendant 2 ans la faute à Sarko. Maintenant, c'est la faute à l'euro. Mais il faut que M. Hollande regarde la réalité
alors,
en face.
Alors, une décision, c'est... Laquelle faudrait-il prendre ? Vous dites qu'il faut prendre des décisions, une seule.
Nous pensons, par exemple, qu'il faut immédiatement stopper l'embauche de nouvelles dépenses publiques et donc de recrutement de fonctionnaires. Deuxième exemple, nous pensons qu'il faut suspendre immédiatement ce qu'on appelle les seuils, c'est-à-dire le délai, le niveau au-delà duquel une entreprise change de catégorie et donc elle a des contraintes administratives supplémentaires. Nous avons déjà proposé ce type de mesure et nous pensons qu'elle pourrait être efficace. Ensuite, il faut une réforme fiscale de beaucoup plus grande ampleur que celle qui a été évoquée par le Premier ministre, parce qu'aujourd'hui, l'économie française, elle est asphyxiée.
Luc Chatel, j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet. J'imagine que vous avez lu le cas enchaîné la semaine dernière. On y apprend que quand vous étiez ministre, vous avez fait travailler une entreprise de conseil appelée Boston Consulting Group, une entreprise d'ailleurs que l'UMP avait aussi fait travailler auparavant. Et depuis le changement de majorité, depuis ces 2 dernières années, c'est l'inverse, c'est cette entreprise qui vous a fait travailler. D'après le Canard enchaîné, vous avez reçu 230 000 euros d'honoraires de sa part. Alors il n'y a rien d'illégal. Est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est un échange de bons procédés ?
Tous les gouvernements travaillent avec des cabinets de conseil en stratégie qui sont 2 ou 3 de haut niveau dans le monde, dont fait partie le Boston Consulting Group. Donc j'ai appartenu à un gouvernement qui a fait travailler, comme il a fait travailler McKinsey, le Boston Consulting Group. Tout ça, c'est fait dans le cadre de procédures d'appel d'offres totalement transparentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un décideur à un moment qui dit
le canard enchaîné dit qu'il n'y a eu qu'un appel d'offres sur 4 missions.
Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des appels d'offres. Tout est encadré. Et c'est normal. C'est normal que lorsque, au gouvernement, on décide de faire appel à un prestataire extérieur, il y ait une procédure d'appel d'offres. Donc tout cela s'est fait dans ce cadre, avec plusieurs cabinets. C'est-à-dire que nous avons fait travailler des gens de tous horizons. Nous n'avons pas fait travailler un seul cabinet.
Et après, c'est normal que ce cabinet vous fasse travailler, vous, 2 ans
plus tard. Mais ensuite, si vous voulez, je vais vous dire, moi, je suis un homme d'entreprise. Voilà. Moi, j'ai travaillé 12 ans avant d'être député dans le monde du privé. Je ne suis pas fonctionnaire. J'ai quitté, à l'époque, mon emploi pour devenir député. mais je revendique le fait d'être un homme d'entreprise. C'est-à-dire qu'en 2012, oui, j'ai créé mon entreprise et je pense qu'il faudrait un petit peu plus à l'Assemblée nationale et au Sénat de parlementaires qui aient cette expérience de l'entreprise. Voilà. Donc j'assume le fait d'être un homme d'entreprise.